Alors voici votre premier journal. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Il est 6h. Bon réveil.
I feel quite...
Je suis très émue d'être ici et j'espère que la reine peut voir tout notre amour, tout notre soutien.
Les Britanniques rendent hommage au prince Philippe. Il était le grand-père de la nation. Le mari de la reine Elisabeth s'est éteint hier matin à 99 ans.
En France, la campagne de vaccination se poursuit. 10,5 millions de personnes ont reçu une première dose.
La mosquée de Pantin, fermée après l'assassinat de Samuel Paty, a pu rouvrir. Hier, nous y étions.
Et puis l'affiche du jour en foot, Strasbourg-PSG, 17h, match piège. Attention pour les Parisiens.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le Royaume-Uni pleure ce matin son prince consort, le mari de la reine Elisabeth, le prince Philippe, s'est éteint hier.
À 99 ans et à présent en avoir passé les trois quarts au service de la monarchie dans l'ombre de la reine. Malgré les restrictions sanitaires, les Britanniques hier se sont rassemblés devant le palais de Buckingham pour lui rendre hommage. Reportage à Londres d'Élodie Goulesque.
Dedicated, British, devoted,
dedication, character.
Dévoué, britannique et un vrai personnage, voici comment les Anglais venus lui rendre hommage devant Buckingham Palace décrivent le prince Philippe. Pour Tara, écharpe à l'effigie du drapeau britannique autour du cou et les yeux remplis d'émotion, se recueillir devant le palais royal était une évidence.
Je suis très émue d'être ici. Et j'espère que la reine peut voir tout notre amour, tout notre soutien.
Tout comme Tara, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Buckingham Palace.
Il a été un conjoint fantastique pour la reine, donc il fallait que je vienne ici.
Parmi la foule, il y a aussi quelques curieux comme Kieran, un Irlandais qui vit à Londres.
Il est retombé sur ses pieds. Épouser la reine, vivre jusqu'à 99 ans, que demander de plus? Il a eu beaucoup de chance.
Qu'on soit royaliste ou pas, une chose est sûre, c'est un morceau d'histoire qui a disparu avec le prince Philippe. Londres, Élodie Goulesque, Europe 1.
Au Royaume-Uni, le prince Philippe était surnommé affectueusement le grand-père de la nation. Lui qui a renoncé à sa carrière et à ses titres en épousant celle qui allait devenir reine. Laura Taouchanoff nous dresse le portrait de Philippe Mountbatten.
C'était le membre le plus âgé de la monarchie britannique. Né en 1921 dans la famille royale grecque, le prince Philippe vit une enfance mouvementée, trimballée de pays en pays, de château en pensionnat. À 18 ans, il intègre la Royal Navy et grâce à son lien de parenté avec la famille royale, il épouse en 1947 celle qui deviendra la reine d'Angleterre. Philippe devient alors le duc d'Édimbourg, mais ce nouveau rôle lui pèse. « Je suis devenu un microbe », disait-il, l'impression toujours de marcher deux pas derrière sa femme. Il s'investit pourtant dans de nombreuses causes, l'éducation par exemple et surtout l'environnement.
J'étais dans la marine pour 12 ans, alors on était toujours sur la mer. Si on habite dans la ville tout le temps, on n'est pas conscience de ça. Alors on ne peut pas dire que c'est une patience, c'est quelque chose qu'on a appris.
Un homme moderne, Prince Philippe invite pour la première fois de l'histoire la télévision au couronnement d'Elisabeth II. C'est aussi un franc-parler et un sens de l'humour très populaire. Un penchant pour la séduction aussi, beaucoup de rumeurs sur son infidélité. Fidélité présumée avec la reine. Et puis en 2017, il se retire officiellement de la vie publique et accumule les problèmes de santé jusqu'à sa mort.
Laura Taouchanoff, depuis hier, les drapeaux des résidences royales sont en berne et des coups de canon retentiront à la mi-journée dans tout le pays.
Et le duc d'Édimbourg, maintenant, c'est le prince Charles. On parle du prince Philippe tout à l'heure à 7h40 avec Stéphane Bern.
L'actualité en France, c'est le début des vacances scolaires. Depuis hier soir, toutes les zones sont en congé pour 2 semaines. Congé confiné, bien sûr. Les restrictions sanitaires continuent de s'appliquer.
Et dans le même temps, Marguerite, la vaccination se poursuit. Plus de 10,5 millions de Français ont reçu leur première dose.
Oui, certains d'entre vous ont peut-être toqué à la porte des vaccinodromes, ces méga-centres qui se développent peu à peu en France. Le plus grand est installé dans le Stade de France, à Saint-Denis. On y vaccine depuis le début de la semaine. Reportage et bilan de ces premiers jours avec Pierre Herbulot.
Plusieurs centaines de mètres de file d'attente, comme une impression de jour de match devant la porte E du Stade de France. Sous les tribunes, les dizaines de tentes de vaccination tournent à plein régime.
Allez, soufflez, je pique.
Satisfaction de l'avoir fait, d'être débarrassé. Après, beaucoup de queue quand même. 2 heures, c'est assez long quand même.
Ça montre aussi que la demande est forte, ce qui réjouit ce jeune interne en médecine.
Je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que ça va faire avancer les choses et
Enfin peut-être sortir de cette crise, en tout cas, ce serait bien quoi.
Un étage au-dessus, face à la pelouse, une cinquantaine d'étudiants embauchés par le département répondent au standard téléphonique.
Centre de vaccination du Stade de France, bonjour.
Plusieurs milliers d'appels chaque jour, détaille Brigitte, la responsable.
Il y a vraiment, les gens se précipitent, et d'ailleurs on a même des gens qui pleurent presque au téléphone parce qu'on ne peut pas leur donner de rendez-vous, hein. Ils veulent tous venir ici.
Début de mission accompli pour Stéphane Troussel, le président du département.
Au total, vraisemblablement dans la semaine, on sera 11 000 personnes vaccinées, donc c'est considérable. Et puis, d'ores et déjà, la moitié des créneaux sont d'ores et déjà réservés pour la semaine prochaine, donc c'est plutôt satisfaisant.
D'autant que le Stade de France est calibré sur le nombre de doses disponibles, il pourrait tripler sa capacité de vaccination quasiment du jour au lendemain.
Un reportage de Pierre Herbulot. Deux informations en bref. L'Agence américaine du médicament affirme qu'il n'y a pas de lien établi entre les cas de thrombose et le vaccin Johnson & Johnson. 4 cas suspects ont été recensés aux États-Unis. L'Europe, de son côté, lance une enquête quelques jours avant les premières livraisons de ce vaccin dans l'UE. Et puis les laboratoires Pfizer annoncent travailler sur 2 médicaments contre le Covid. Les essais cliniques ont débuté. Voilà ce qu'affirme le porte-parole de Pfizer de Pfizer France dans le Parisien.
Presque 6h06, direction Pantin en Seine-Saint-Denis, où les musulmans ont pu retrouver leur mosquée hier.
Oui, elle avait fermé en octobre 2020, juste après l'assassinat de Samuel Paty. La mosquée avait publié sur son compte Facebook la vidéo du parent d'élève à l'origine du drame. Depuis, le recteur a démissionné. La mosquée a pu rouvrir hier. Et Damien Mestri était pour Europe 1.
Ils sont une centaine à étendre leur tapis de prière à l'intérieur de la mosquée. Presque autant dehors, distanciation oblige. Cela fait 6 mois que la plupart devaient aller dans les communes voisines. Et c'est donc enfin les retrouvailles.
Je pourrais pas espérer mieux à l'entrée du mois de Ramadan. Une mosquée juste en face de chez moi, qu'elle soit ouverte. Franchement, je suis très content.
Ça nous a manqué. C'est une jolie mosquée. Pas très belle, mais en tout cas, ça fait plaisir de revenir.
La mosquée rouvre car son recteur a été écarté. L'ancien imam également a démissionné. Le prêche s'ouvre par des remerciements envers Emmanuel Macron, Jean Castex, ainsi que
toutes les personnes qui ont participé à la réouverture de la grande mosquée de Pantin. Merci, merci et mille merci.
Des remerciements et puis une demande de Idir Mazouzi, le nouvel imam, adressé à tous ceux qui l'écoutent.
J'ai déjà lancé un appel à tous les fidèles de respecter les lois de la République, le comportement du bon musulman. Voilà.
Et il espère faire oublier la mauvaise image de la mosquée et que les croyants tournent enfin la page à quelques jours du début du Ramadan.
Un reportage de Damien Mestre.
Et on reparle de cette réouverture de mosquées, sur le tri des imams aussi, sur le texte sur le séparatisme avec Jean-Luc Mélenchon, notre invité politique à 8h15.
L'Association des régions de France demande la création d'un fonds d'urgence dédié après l'épisode de gel qui a détruit plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures cette semaine. Les vignes et les vergers notamment ont souffert, ce sera le dossier du journal de 8h tout à l'heure. Et puis les députés ont validé hier l'extension de la prime à la conversion, c'est une mesure de la loi climat. L'objectif est d'étendre cette aide aux vélos électriques et aux vélos cargo. Aujourd'hui, cette prime ne s'applique que pour l'achat d'une voiture propre.
En football, 4 jours après la victoire contre le Bayern et avant de recevoir les Allemands en match retour, le PSG se déplace à Strasbourg.
Et c'est le genre de match piège entre 2 rendez-vous de Ligue des Champions. Les joueurs sont fatigués, certains sont même absents, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Parisiens sont sur leur garde car ils ont perdu les 3 derniers matchs qui ont suivi leur rendez-vous européen. Or, Paris ne peut pas se relâcher. Il ne reste que 7 matchs à jouer en Ligue 1, 21 points à distribuer. La défaite contre Lille a coûté très cher. L'objectif est de s'imposer tout en ménageant un effectif déjà diminué. Neymar est suspendu, Marquinhos souffre aux adducteurs, Verratti et Florenzi sont toujours absents pour cause de Covid. L'entraîneur Mauricio Pochettino sera très prudent.
Pour nous, l'important, c'est notre capacité à détecter les joueurs les plus frais pour jouer ce match, sans non plus leur faire courir le moindre risque. Il faudra être prêt physiquement, mais aussi avoir de la qualité pour gagner ce match.
Même amputé de plusieurs joueurs, Paris peut se transformer en véritable bulldozer, mais l'entraîneur de Strasbourg, club qui végète au milieu de tableau, a quand même un petit espoir de l'emporter.
Ça va être chaud, mais s'ils sont à 100%, t'auras pas trop d'espoir. Par contre, s'ils ne sont pas à 100%, tu peux avoir des ouvertures.
D'autant que Paris a déjà perdu 8 fois cette saison en Ligue 1. Mais si Kylian Mbappé brille comme mercredi dernier à Munich, alors ce sera une autre histoire.
Cyril de la Morinerie, Strasbourg, PSG, c'est donc à 17h, juste avant Montpellier-Marseille. Hier, le leader Lille a confirmé sa première place en s'imposant 2-0 face à Metz. Et puis toujours en football, on connaît désormais les affiches des quarts de finale de la Coupe de France. Il y aura notamment 2 chocs, Lyon-Monaco et Paris-Angers. Puis les amateurs de Canet et de Rumilly Bobigny, Vallières affronteront respectivement Montpellier et Toulouse.
Et puis on le disait en début de journal, les vacances scolaires ont donc débuté, mais ce sont des vacances confinées.
Oui Pierre, les sorties au-delà de 10 km, on le rappelle, sont interdites. Alors pour les chanceux qui habitent sur la Côte d'Azur, eh bien voici notre idée de sortie du matin. Frédéric Michel vous emmène sur la petite île Saint-Honorat au large de Cannes.
Voilà, donc on va monter dans le bateau qui nous amènera dans une vingtaine de minutes à l'île Saint-Honorat.
Moi, je suis Michel Caserta, bénévole à l'île de Lérins. Donc, je présente l'île à des visiteurs du monde entier.
Nous vous souhaitons une bonne journée sur l'île Saint-Honorat.
Voilà, nous sommes sur l'île. Alors, l'île est toute petite. Elle fait 1,5 km de long et 400 mètres de large. Et on en fait le tour en trois quarts d'heure en se baladant. On va passer par l'allée centrale qu'on appelle l'allée des Oliviers. Et en face, vous le voyez, il y a des vignes. Là, nous allons vers la chapelle de la Trinité.
Il y a vraiment beaucoup de choses à voir.
Oui, beaucoup. Parce qu'après, on va aussi voir un four à boulet rouge qui, lui, date de Napoléon Ier. Alors, pourquoi la nouvelle abbaye est-elle à côté de l'ancienne abbaye? C'est une tradition monastique. Et pourquoi Tours Monastère? Parce que cette île a toujours abrité une communauté de moines, mais aussi des militaires pour défendre la place. Alors maintenant, bien sûr, il n'y a plus de soldats sur l'île, il n'y a que les moines.
Comme vous le voyez, l'église monastique est très sobre, très dépouillée.
Je vous dis, sur cette île, on a tout. L'histoire, la beauté des lieux, la foi pour ceux qui sont croyants. Pour ceux qui ne le sont pas, on a la paix et la sérénité. C'est une île que Paul Claudel a décrit comme étant une miette de prière dans un océan d'éternité.
Voilà pour cette carte postale sonore signée Frédéric Michel.
Merci beaucoup Marguerite. À tout à l'heure pour le journal de 7h.